RFI, il est 6h30 à Paris et Kinshasa, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à tous.
La société civile congolaise demande une nouvelle renégociation du contrat du siècle.
Oui, cet accord passé en 2008 entre Kinshasa et des entreprises chinoises qui devait rapporter près de 4 milliards de dollars au pays, mais qui n'offre aucune garantie et qui dépend en grande partie du prix du cuivre. La RDC ou le PPRD de Joseph Kabila a déjà les élections générales de 2028 en tête. Le parti de l'ancien président a engagé une restructuration cette semaine et qualifie toujours de dictature le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vive réaction à Maseru, hier capitale du Lesotho, un pays qui s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle sortie provocatrice de Donald Trump. Personne n'en a jamais entendu parler, a lancé le président américain. Personne, pourtant, Elon Musk cherche à y installer l'une de ses compagnies. Et puis les robes noires des avocats camerounais au placard, au moins jusqu'à demain. Les avocats du pays sont en grève, ils dénoncent des violences de la part des forces de l'ordre, mais aussi l'impunité des autorités. Il était vu comme le contrat du siècle en République démocratique du Congo, des infrastructures contre un accès aux mines par un consortium d'entreprises chinoises. Un accord conclu il y a 17 ans sous Joseph Kabila. Le contrat a été renégocié l'an dernier, mais la société civile estime qu'il est toujours bien plus bénéfique à la partie chinoise, évoquant un manque à gagner de 132 millions de dollars. La coalition de la société civile Le Congo n'est pas à vendre incite ainsi à reprendre les termes du contrat et à rééquilibrer les gains. Depuis Kinshasa, Pascal Moulégoua.
Dans ces deals vantés par le gouvernement, l'État percevra 324 millions de dollars chaque année en termes d'infrastructures routières et cela pendant près de 20 ans. Mais ces décaissements sont incertains car il y a une condition, il faut que le prix de la tonne du cuivre soit à au moins 8 000 $. Sinon, l'État recevra moins, voire rien du tout selon la coalition de la société civile, le Congo n'est pas à vendre. Autre problème souligné, si par exemple les prix passaient à 12 000 $ la tonne, la partie congolaise percevra la même somme, c'est-à-dire 324 millions de dollars. Pour que l'État en tire quelques 30% supplémentaires, il faut que la tonne de cuivre dépasse 12 000 $, ce qui n'a jamais été atteint. La coalition évalue à 132 millions de dollars de manque à gagner pour la seule année 2024. Le contrat n'offre aucune garantie selon Babi Matabishi, coordonnateur au centre Carter et membre du Congo n'est pas à vendre.
Tout est fonction du prix du cuivre. Il y a cette volatilité-là et cette incertitude qui ne garantit pas que les 324 millions constituent déjà un acquis.
Et quelle que soit la production qui sera faite, le montant reste égal. Une aberration flagrante selon les auteurs de la note.
Comment vous pouvez comprendre une entreprise qui produit 100 000 tonnes de cuivre, qui paie 324 millions de dollars, le jour où elle va produire 200 000 tonnes, même le jour où elle produit 400 000 tonnes, qu'elle paie le même montant? L'aspect-là n'est pas pris en compte.
Les rapports dénoncent aussi le maintien des exonérations fiscales d'au moins 100 millions de dollars, mais les autorités affirment toujours pouvoir compenser par un volume important d'infrastructures. Pascal Moulégoua, Kinshasa, RFI.
La RDC ou le parti de l'ancien président Joseph Kabila cherche à se restructurer en vue des élections générales de 2028. Le bureau politique du PPRD s'est réuni il y a deux jours dans la capitale sous la direction d'Aubin Minaku, désigné vice-président du parti et désormais intérimaire de l'ancien président. Et Patient Ligaudi, d'importantes décisions y ont été prises pour relancer les activités du PPRD.
La première décision annoncée concerne la création d'une cellule d'analyse et de prospective. Cet organe sera rattaché au bureau politique et au secrétariat permanent du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer toutes les hypothèses possibles concernant la marche du pays, a déclaré à RFI Aubin Minaku, et ce sera selon lui une sorte de laboratoire d'idées. Cette cellule qualifiée de stratégique devra être mise en place d'ici à 10 jours avec la désignation de ses animateurs dans le même délai. D'autres nominations sont attendues, notamment pour 4 des 6 postes de secrétaire permanent adjoint actuellement vacants. Des changements sont également prévus au niveau provincial dans l'optique d'une réorganisation du parti en profondeur. Cette restructuration vise aussi les élections générales de 2028. Aubin Minaku explique que le parti se considère comme étant dans la résistance face à ce qu'il qualifie des dictatures. Pour porter ces nouvel élan, la cellule de communication du parti sera aussi réorganisée et professionnalisée avec une présence renforcée à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Pendant ces temps, Joseph Kabila toujours absent du pays. Pourquoi et où est-il? Aubin Minaku répond. Il est à l'étranger pour son projet doctoral, mais aussi pour des raisons sécuritaires. Avant son départ, il faisait face, dit-il, à un harcèlement politique. Un retour en RDC, oui, mais il faut des garanties de sécurité, martèle Aubin Minaku.
Un patient Ligodi, et on vous en parlait hier, le CC et la Senco ont poursuivi leurs consultations en vue d'un pacte social pour la paix dans la région des Grands Lacs. Les églises protestantes et catholiques de RDC qui ont rencontré le président ougandais Yoweri Museveni, mais aussi Thomas Lubanga, ancien chef de guerre, notamment condamné en 2012 pour crime de guerre en Ituri dans les années 2000 par la Cour pénale internationale. Lui qui est désormais accusé par les Nations Unies de collaborer avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Et puis, sachez que l'un de nos correspondants au Tchad, Olivier Monodji, est en garde à vue à N'Djamena depuis hier. Il a été contraint de suivre des policiers venus lui délivrer un mandat d'arrêt signé par le procureur de la République à la mi-journée, alors qu'il se trouvait dans les bureaux du journal Le Pays, dont il est directeur de la publication. Olivier Monodji a passé la nuit dans un cachot de la direction de la police judiciaire dans le quartier de Mursal, dans la capitale. Jusqu'ici, il n'a pas été formellement entendu selon ses avocats avec lesquels RFI est en contact. Son ordinateur a été saisi mais aucun motif ne lui a été présenté pour justifier cette situation. De nouveaux propos de Donald Trump qui font réagir sur le continent. Hier, le président américain était pour la première fois devant le Congrès depuis sa réélection. Est venu le moment où il a justifié les coupes de son pays dans l'aide internationale. Donald Trump a cité le Lesotho, pays a-t-il lancé dont personne n'a jamais entendu parler, et qui bénéficierait selon lui de 8 millions de dollars pour promouvoir les LGBT+. Réaction dans la foulée des autorités de Maseru qui se sont dites choquées et embarrassées, envoyant même une lettre de protestation à Washington. Ce matin, je vous propose d'écouter Cananello Boloetse, journaliste et militant pro-démocratie qui déplore l'ignorance de Donald Trump.
Les États-Unis possèdent toute une ambassade ici dans notre capitale Maseru. Donc dire que personne dans le gouvernement américain ne connaît le Lesotho, c'est étrange et c'est bizarre. Donald Trump fait preuve d'une grande ignorance, ou alors il voulait insulter le Lesotho et ses citoyens. Mais si jamais il souhaite en apprendre plus sur nous, il faut lui dire que notre pays est situé en Afrique australe, que Bill Gates est déjà venu au Lesotho et que son conseiller Elon Musk et sa compagnie Starlink cherchent en ce moment à s'installer au Lesotho. Donc c'est très étrange et très embarrassant pour Trump de dire que personne n'a jamais entendu parler de notre pays, alors que l'une des personnes les plus proches de lui est en ce moment même en train de faire une demande de licence pour son entreprise Starlink auprès des autorités du Lesotho.
The person who is very closest to him has his company applying for a license in Lesotho.
Le journaliste lesotan Cananello Boloetse, il était joint par Sidi Yansane. Les États-Unis, on continue d'en parler dans ce journal. La semaine dernière, Washington a conclu un programme de coopération de 5 ans avec le Bénin en faveur de la lutte menée par les autorités contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et le Bénin peut compter sur le soutien d'autres partenaires, à l'instar de l'Union européenne qui entend apporter, entre autres, une aide matérielle, notamment aérienne. RFI Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
L'avion est offert par l'Union européenne et sera remis aux forces armées béninoises sur la base aérienne à Cotonou. Il s'agit d'un avion de reconnaissance et de surveillance qui servira pour l'opération Mirador. Le chef d'état-major de l'Union européenne, le général Michel van der Laan, est annoncé à Cotonou pour l'occasion. Une semaine avant l'Union européenne, les forces armées béninoises ont conclu un programme de coopération avec les États-Unis, qualifié par un haut gradé béninois de partenaire solide et majeur. Par le passé, les USA ont donné des véhicules blindés, du matériel de communication, des équipements individuels et interviennent pour soigner et évacuer les soldats blessés sur le front. Le programme conclu le 27 février dernier a retenu 5 axes, la sécurité intérieure, le renseignement, la santé, la logistique et la lutte contre le terrorisme. L'ambition des forces de défense et de sécurité d'ici à 2030 est entre autres de monter en puissance dans l'aviation, le renseignement et créer des forces spéciales. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Des FDS victimes ces derniers jours de 2 attaques. En début de semaine à Yangwali et il y a une dizaine de jours à Kantoro, des sources militaires évoquent la neutralisation de plusieurs terroristes et déplorent un soldat tué, d'autres blessés dans les rangs de l'armée. Au Cameroun, à présent, les avocats en grève, un mouvement lancé ce mercredi et qui doit durer jusqu'à la fin de la semaine. Ils dénoncent des abus et des agressions de la part des forces de l'ordre sous le regard passif des autorités, assure-t-il. Polycarp Jean-Pierre Pessomba est à Yaoundé pour RFI.
La grève a été provoquée par la diffusion sur les réseaux sociaux début mois de mars d'une vidéo où l'on pouvait voir un avocat molesté par les forces de l'ordre. Intolérable, estiment les hommes en robe noire, d'autant que le fait venait s'ajouter à d'autres enregistrés ces derniers temps. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Maître Mba, Eric Mba.
Ces derniers temps, de plus en plus, les avocats sont maltraités, molestés, menottés et traités de la manière la plus dégradante. Même la façon dont les avocats sont traités dans les unités de police et de gendarmerie est horrible. Et la question que nous nous posons est la suivante. Si les avocats peuvent être traités de cette manière, qu'en est-il du citoyen ordinaire ?
Entre autres actions préconisées pendant ce débrayage de 72 heures, la suspension du port de la robe noire et la non-fréquentation des cours et tribunaux sur l'étendue du territoire national.
Après ces trois jours, nous reprendrons le travail en espérant qu'ils auront entendu notre message et qu'ils amélioreront la situation. Nous sommes très optimistes. Le ministère de la Défense m'a déjà contacté pour comprendre le problème. Je l'ai expliqué et ils ont dit d'accord, est-ce que l'on peut en parler ? Quant aux gendarmes, nous avons déjà entamé des discussions avec eux. La police, je sais qu'elle suivra également.
Au terme de ces 72 heures d'arrêt momentané de leurs activités, les avocats espèrent que cette forme de plaidoirie fera écho auprès des autorités pour une meilleure prise en compte de leur sécurité et plus d'égard à leur corps de métier. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Et puis c'est l'une des espèces les plus emblématiques du continent africain, mais une espèce menacée par les braconniers, le rhinocéros blanc. Alors pour tenter de la sauver et de la faire évoluer, 18 de ces animaux ont été transférés sur 4000 kilomètres de l'Afrique du Sud jusqu'à la Tanzanie, jusqu'au célèbre cratère de Ngorongoro. Les détails de cette manœuvre avec Stéphanie Schuller.
Dans les années 1970, la Tanzanie abritait encore 10 000 rhinocéros blancs. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, ils ne sont plus que 212. L'arrivée ce mardi de 18 spécimens en provenance d'Afrique du Sud est donc une excellente nouvelle pour ce pays d'Afrique de l'Est. Car les rhinocéros rendent de nombreux services à l'écosystème dans lequel ils vivent. Ces herbivores mangent de grandes quantités de végétation. Ils entretiennent ainsi la diversité végétale des savanes et contribuent via leurs excréments à disperser des graines et donc à régénérer les forêts. Grands adeptes des bains de boue, ils maintiennent aussi les points d'eau essentiels aux autres animaux. Les rhinocéros arrivés cette semaine seront suivis de 18 autres. Tous font partie d'un programme par lequel l'Afrique du Sud souhaite faire d'une pierre deux coups, tenter de réintroduire les rhinocéros blancs dans des pays d'où ils ont presque disparu. Le Botswana, le Rwanda et la RDC aussi ont déjà reçu des spécimens. Puis de soustraire ces rhinocéros relocalisés aux braconniers sud-africains qui en ont tué, selon les estimations, plus de 10 000 en 18 ans.
Explication signée Stéphanie Schuller du service environnement de RFI. C'est à vous, Andréane Mellard.
Merci, Nemo Pis. Il est 6h43 à Paris.